Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 25 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Entretien téléphonique de l'émir du Qatar et du président vénézuélien avec le président élu des Iraniens. Des dizaines de mercenaires et d'officiers saoudiens tués lors d'une frappe de drone de la résistance yéménite. La Russie menace de bombarder les navires britanniques en mer Noire en cas de nouvelle provocation. Et l'occupant américain poursuit la consolidation de ses bases à Jazeera, en territoire syrien. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a eu une conversation téléphonique avec le président élu iranien, Ebrahim Raisi, jeudi soir. Lors de cette conversation téléphonique, l'émir du Qatar a félicité le président élu iranien, Sayed Ebrahim Raisi, pour sa victoire à l'élection présidentielle iranienne et lui a souhaité du succès. Les deux parties ont discuter des relations bilatérales et des perspectives de développement et de renforcement de ces relations entre Téhéran et Doha. Le président vénézuélien Nicolas Maduro aussi a déclaré dans un message qu'il a eu une discussion téléphonique avec Ebrahim Raisi, a évoqué les axes de cet entretien. Nicolas Maduro, président vénézuélien, a écrit sur Twitter que j'ai eu une discussion téléphonique avec le président élu iranien Ebrahim Raisi. Nous avons convenu de renforcer les relations amicales et nos coopérations dans le cadre de faire avancer l'effort conjoint contre les hostilités de l'impérialisme qui agissent contre nos nations, a souligné le président vénézuélien. L'armée de l'air yéménite a déchaîné un SM de drones sur un camp d'entraînement situé dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. des dizaines de mercenaires dirigés par les Saoudiens et les officiers de l'armée saoudien ont été tués ou blessés lors de cette frappe. C'est le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, qui en a fait l'annonce, a rapporté l'agence de presse officielle yéménite Sabah. L'attaque a eu lieu 2 jours plus tôt contre un camp d'entraînement militaire basé dans la région d'Al-Wadiya Najran dans le sud-ouest du royaume, s'est-il félicité. 10 drones de type RAS-CVK-2 ont visé le centre de commandement, les centres d'entraînement et d'autres bâtiments dans cette base, a-t-il expliqué. Toujours selon Yahya Sari, les drones ont organisé des attaques précises contre leurs cibles, tuant et blessant jusqu'à 60 mercenaires, dont un certain nombre de commandants supérieurs. Dans cette opération de grande envergure, plus de 60 mercenaires, dont plusieurs commandants, ont été tués ou blessés. Un certain nombre d'officiers saoudiens figurent parmi les tués, a-t-il déclaré, ajoutant que des images relatives à cette attaque avaient été enregistrées et qu'elles seraient diffusées. L'occupant américain poursuit la consolidation de ses bases à Jazirat. L'occupant américain a fait entrer un convoi de véhicules chargés du matériel logistique alors que l'un de ses avions militaires avait largué 3 conteneurs sur sa base à Shadadi, au sud de Asaka, en vue de soutenir ses forces dans la région syrienne Jazira. Cité par la correspondante de Sana Ramishli, des sources locales du village de Souaïdia dans la banlieue de Yaroubia avait fait entrer 33 véhicules dont des camions frigorifiques et des semi-remorques chargés du matériel logistique en plus des camions citernes de pétrole et qu'il s'était orienté vers la ville de Ramilan dans la zone de Malkia à l'est de la ville de Qamishli. Toujours cité par le correspondant de Sana, des sources civiles ont indiqué qu'un avion appartenant aux forces d'occupation américaines avait largué 3 conteneurs sur leur base dans la ville de Shadadi avant de s'orienter vers le gisement de pétrole Al-Omar dans la banlieue est de Deir ez-Zor. Selon les sources, les conteneurs ont compris du matériel logistique, des armes légères, des munitions, des désinfecteurs et de l'eau potable consacrée aux soldats de l'occupant américain dans la base. Le Hezbollah libanais a réagi au blocage de 33 sites médiatiques de la résistance par les États-Unis. Le responsable du bureau des relations médiatiques du Hezbollah libanais, Mohamed Afif, a fermement condamné le crime commis par l'administration américaine contre un grand nombre de sites médiatiques libres. Une démarche qui confirme la politique de répression des libertés menée par Washington sous de faux slogans, selon lui. L'administration américaine a voulu, par le blocage de ces sites, dissimuler la diffusion de la vérité sur les crimes et les atrocités commis par les États-Unis et ses alliés à l'encontre des peuples opprimés dans notre région, notamment en Palestine, au Yémen, où ils sont soumis aux pires formes d'abus et de blocus, a expliqué M. Afif. Au moment où nous exprimons notre solidarité, soutenons ces sites honorables, qu'aucun pouvoir, aussi arrogant soit-il, ne pourra étouffer la vérité. Nous appelons à une plus large campagne de solidarité avec ces médias pour qu'ils puissent continuer d'accomplir leur mission humanitaire honnête. La Russie a menacé de bombarder les navires britanniques en cas de nouvelles provocations en mer Noire. La Russie a fermement dénoncé auprès de l'ambassadrice britannique les actions dangereuses d'un navire britannique au large de la Crimée qui, selon Moscou, a essuyé des tirs de semonce pour être entré dans les eaux territoriales russes. Deborah Bronner, l'ambassadrice du Royaume-Uni à Moscou, a été convoquée au ministère russe des Affaires étrangères, a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué brocardant les actions dangereuses et provocatrices du navire britannique. La Russie affirme avoir tiré mercredi 23 juin des coups de semonce contre un des destroyers britanniques en mer Noire au large de la Crimée que la Russie considère comme sienne depuis l'annexion de 2014. Au cas où de nouvelles provocations se reproduisent, toute la responsabilité de leurs éventuelles conséquences reposera entièrement sur la partie britannique, ajoute le communiqué russe. Moscou a averti Londres qu'il bombarderait les navires de guerre britanniques en mer Noire si de nouvelles actions provocatrices étaient menées par la marine britannique au large des côtes de la Crimée. Le premier ministre algérien a démissionné après l'annonce de la victoire du Front de Libération Nationale FLN aux élections législatives. Le premier ministre algérien Abdelaziz Djerar a présenté sa démission. Le premier ministre algérien a présenté sa démission près de deux semaines après les élections législatives du 12 juin, ouvrant la voie à la nomination d'un nouveau gouvernement par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, rapporte la télévision publique algérienne. Le chef de l'État a de son côté chargé M. Djerar de gérer des affaires courantes dans l'attente de la désignation d'un nouveau gouvernement, indique Algérie Presse Service. Dans la soirée du 23 juin, le Conseil constitutionnel avait confirmé la victoire aux législatives du 12 juin du parti du Front de Libération Nationale qui est arrivé en tête avec 98 sièges, suivi des indépendants avec 84 sièges et du mouvement de la Société pour la paix avec 65 sièges. Prorogation pour 18 mois de l'état d'urgence au Burkina Faso. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a voté la prorogation pour 18 mois de l'état d'urgence en vigueur dans 14 des 45 provinces du pays qui sont en proie à des attaques terroristes, a-t-on appris des sources d'information. 120 députés ont voté pour et 6 se sont abstenus. Cette prorogation, entrant en vigueur le 13 juillet, concerne des provinces réparties dans les régions de la boucle du Mouhom Est, du Centre-Est, de l'Est, des hauts bassins dans l'Ouest du pays, du Nord et du Sahel. Et elle permettra aux autorités locales de poursuivre la prise de mesures adaptées à leur zone de compétence dans la lutte antiterroriste, a dit la ministre de la Justice. Elle a par ailleurs annoncé que depuis son entrée en vigueur en 2019, l'état d'urgence a permis l'arrestation de 800 personnes dont les procès vont bientôt s'ouvrir. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, et plus précisément en provenance du Burkina Faso, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Bonjour à
à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission, le débat. La résistance yéménite a abattu un drone d'espion américain très sophistiqué. Et d'ailleurs, au-dessus de Ma'arib, cette région hautement stratégique et importante où se déroulent actuellement des combats acharnés d'un côté la résistance libanaise et d'autre côté le régime agresseur saoudien, ses mercenaires et ses alliés, en l'occurrence les États-Unis. La destruction de cet avion, de ce drone d'espion sophistiqué américain au-dessus de Ma'arib intervient à un moment où les autorités américaines sont, si vous voulez, passées à l'acte pour soutenir, ça fait déjà plusieurs années, le régime agresseur saoudien et elles avouent désormais, elles reconnaissent désormais les capacités de la résistance yéménite de cette fois-ci en termes, si vous voulez, d'usage des drones sophistiqués et également d'usage de la DCA sophistiquée, la DCA capable, si vous voulez, désormais de détruire non pas les drones saoudiens, mais également les drones américains. C'est une évolution très, très importante, d'autant plus qu'en fait, le régime agresseur saoudien, ses alliés et ses patrons, en l'occurrence toujours les États-Unis, se trouvent toujours en fait incapables, impuissants, face à la résistance du peuple yéménite. On va vous en parler avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis Damas, un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Arnon Develé. Monsieur Maître Develé, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité. Et l'autre, merci beaucoup. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develé, c'est une analyste franco-syrienne qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Mme Aïssar Midani. Mme Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci pour l'invitation.
Merci. Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment est, évaluez-vous ces récents développements relatifs au Yémen, très particulièrement en ce qui concerne, si vous voulez, de cette mise à profit des capacités de la résistance yéménite en termes, si vous voulez, d'usage de la DCA sophistiquée, s'il vous plaît?
En réalité, la résistance yéménite agit de manière très rationnelle et très déterminée. Donc, à chaque étape, elle accumule des expériences et elle en profite aussi pour améliorer à la fois ses moyens, mais aussi sa stratégie de défense et sa stratégie aussi d'attaque contre les bases saoudiennes et les outils américains qui défendent ces bases saoudiennes. Donc, effectivement, cette dernière attaque contre un drone de l'armée de l'air américaine qui est survenue après l'attaque du drone de l'armée de l'air saoudienne montre quand même un saut qualitatif dans la technologie, dans la précision et aussi dans la manière de s'opposer et puis de s'opposer effectivement à des outils de plus en plus sophistiqués, ce qui veut dire que aussi leurs armes sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus précises et donc ils arrivent à bien défendre. L'objectif, c'est défendre et boucler l'ensemble du ciel yéménite. Il faudrait dans ce cadre-là ajouter le fait aussi que les Américains comme les Saoudiens n'arrêtent pas de mentir et de faire des propositions de cessez-le-feu et puis qui sont des propositions complètement fausses et mensongères qui visent à travers ça en fait de faire en sorte que les Yéménites, la résistance yéménite arrête de se défendre pour qu'elle soit une proie facile face à leurs armes et face à leurs agressions. D'ailleurs, à chaque fois, ils proposent un cessez-le-feu, ils accentuent les attaques aériennes contre les civils, contre les différentes parties importantes de l'infrastructure yéménite. Alors, ces combats d'Arev sont des combats qui sont vraiment stratégiques. La région de Maghreb est une région stratégique importante qui donne sur les passages de l'eau, en fait, sur les passages en mer Rouge de Bab el-Mandeb. C'est une partie aussi, c'est une province qui est très riche du Yémen, qui contient aussi des richesses pétrolières. Tout ça, le peuple yéménite en est privé depuis 2015, que cette agression a commencé par l'Arabie Saoudite et tous les pays de la coalition, donc bien sûr soutenus par les Américains. Et donc, des milliers de personnes ont péri. Et puis, ajouté à un embargo meurtrier et criminel contre le peuple yéménite. Et puis, le bouquet, c'est que récemment, même l'ONU en arrive à déclarer en temps de mort comme étant des forces terroristes. Et puis, c'est eux qui sont des tueurs d'enfants. Donc, en fait, c'est dire à quel point l'ONU est complice de tous ces crimes contre l'humanité et qui prend la défense de l'agresseur et traite l'agressé comme si c'était lui l'agresseur. Donc, ce sont des faits absolument révoltants, même s'ils ont fini par retirer cette accusation, en fait cette partie du rapport qui liste les Ansarullah comme une partie et comme une organisation terroriste et qui tue les enfants. De toute façon, ce sont des tentatives pour discréditer mondialement et auprès de tous les peuples et surtout auprès du peuple de Yémen les forces qui défendent la souveraineté du pays et qui défendent réellement le peuple yéménite.
Merci beaucoup. Maître de Devolet, est-ce que à ce stade, on peut dire que c'est la résistance yéménite qui est en train d'imposer les règles du jeu, très particulièrement sur le plan militaire, si vous voulez, tant au régime saoudien qu'à son allié inconditionnel, les États-Unis?
Écoutez, oui, déjà un moment que la résistance civile impose sa virtuosité militaire. La question était de savoir, et ce depuis quelques mois, dans le cadre des rumeurs de négociations portant sur officiellement l'argument humanitaire, mais là aussi sur des arguments portant sur la reconnaissance internationale du Front National du Salut comme étant une autorité légitime, gagnée par la légitimité du fait qu'elle protège l'intégrité territoriale du pays par l'agression d'une coalition d'États influents, politiquement, militairement et financièrement. La question était de savoir si la résistance yéménite pourrait être éventuellement tentée de se contenter quelque part de demi-concessions par rapport à l'aéroport de Sanaa, par rapport à cette idée de jouer les pompiers écologistes concernant le pétrolier au large des côtes du pays. Et surtout, et ça cachait, c'est là, enfin, qui cachait la forêt, si je puis dire, à savoir se retenir d'aller jusqu'au bout et de libérer la province de Marine. Parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Les Saoudiens sont terrorisés à l'idée que Marib puisse être libéré. Et maintenant, on s'aperçoit au travers du déploiement de ces drones américains que les Américains eux-mêmes sont terrifiés à l'idée que la province de Marib puisse tomber dans l'escarcelle de la résistance. parce que ça aurait des conséquences militaires, tactiques et stratégiques absolument terribles. C'est vraiment le tournant de ce conflit, dans le sens où ça leur permettrait, en utilisant cette plateforme, d'avoir non seulement recours à des sources de revenus considérables, mais aussi de lancer des opérations afin de libérer le reste du pays. Et ça concerne essentiellement, principalement, les Américains et les Britanniques qui, rappelons-le, à l'est du pays, possèdent des bases où ils ont des forces présentes, ainsi que de l'équipement. Donc, à l'aune de départ de l'envoyé spécial onusien, M. Griffin, pour d'autres pastures, d'autres promotions, d'autres aventures, et du rapport probablement fourni par l'envoyé spécial états-unien sur le dossier des ministres, effectivement, on s'aperçoit que maintenant, les Américains ne prennent plus de gants et, avec sa fleur, ils vont certainement prendre une partie, jouer un rôle plus prépondérant dans l'agression contre le Yémen.
Madame Midani, maître de volée, c'est que voilà, les Saoudiens sont, dans l'état actuel des choses, terrorisés parce qu'ils sont inquiets d'une libération par la résistance yéménite de cette région hautement stratégique et névralgique de Marib. En fait, ce drone espion américain, très sophistiqué d'ailleurs, a été détruit au-dessus de cette région, au-dessus de Marib. Madame Midani, on sait très bien que les Américains ont apporté en fait leur soutien militaire, surtout au cours de ces dernières années, depuis 2015, au régime saoudien. Dans l'état actuel de choses, s'agissant de la destruction de ce drone américain sophistiqué, peut-on dire que les États-Unis, parce que ce drone a été détruit au-dessus de Marib, peut-on dire que les États-Unis sont entrés directement dans la guerre contre la résistance yéménite, au moins dans la région de Marib?
Je crois que les Américains n'ont jamais été vraiment absents de cette guerre contre le Yémen. Et en fait, ils ont toujours bien soutenu les Saoudiens. Il y a des responsables, des officiers, des renseignements, etc. Mais là, ils sont rentrés effectivement de manière plus directe, avec des moyens plus sophistiqués. Cette guerre qui est commanditée par les Américains, rappelons-le quand même, par le président Obama lorsqu'il est venu en Arabie Saoudite, soi-disant pour le décès, pour les condoléances lors du décès du roi. Et donc là, ils ont, dès le lendemain, l'agression a commencé contre le Yémen. Ça a été au nom de la coalition, au nom de... il y a une coalition, ils ont quand même essayé de regrouper d'aller dans la région, en fait. Donc c'était les Émirats Arabes Unis, c'était l'Arabie Saoudite, c'était Israël aussi participe dans cette guerre contre le Yémen. Tout ceci dans cette peur exprimée, je dirais, des Américains pour barrer la route aux Chinois et en fait imposer leur domination sur les passages maritimes. C'est donc en fait une peur exprimée aussi de cette alliance qui se fait entre l'Eurasie, en fait l'alliance eurasienne qui se fait entre la Chine et la Russie.
Et Madame Midani, excusez-moi de vous couper. Madame Midani, excusez-moi de vous couper la parole. S'agissant de ce passage maritime auquel vous faites allusion et vous dites que voilà, l'objectif est de barrer la route, si vous voulez, aux Chinois et aux Russes. Là, vous faites allusion à ce détroit ô combien important, ce passage ô combien important maritime de Bab al-Mandeb, n'est-ce pas?
Oui, exactement, à Bab al-Mandeb. Exactement, tout à fait. Donc, sur lequel donne effectivement cette colline de Marib. Et donc, voilà, c'est ça. Et c'est vrai, ce sont les Américains qui ont peur et qui soutiennent de manière frénétique l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, ils interdisent aussi à l'Arabie Saoudite d'avoir des rapports autres. Et comme au Liban, d'ailleurs, ils interdisent les rapports avec la Chine et avec les pays de avec l'Est, je dirais, la Chine, l'Inde, etc. Et donc, là aussi, se manifeste effectivement cette peur et qui se déploie en agressivité totale contre le peuple yéménite. Donc, l'Arabie Saoudite veut absolument, voudrait contrôler le territoire yéménite.
Madame Midani, puisque là, vous, en fait, soulevez un point très, très important, permettez-moi d'avoir l'approbation de Maître De Volley également sur ce point. Je reviendrai vers vous. Maître De Volley, s'il vous plaît.
Oui, écoutez, vous avez parfaitement identifié le contexte géostratégique. Les Américains, sous couvert de déclarations portant à laisser entendre qu'ils allaient plus ou moins retirer par substantiel de leur force de l'Asie occidentale, gardent suffisamment d'éléments et de forces dans la région pour, dans le contexte de contenir la Chine, justement, et ce projet qui porterait sur la création d'un espace économique eurasiatique, qui n'a rien à voir avec un Occident qui, lui, est complètement ruiné et qui s'apprête maintenant à transformer anthropologiquement sa propre population. Donc, dans ce contexte précis du Yémen, c'est un pion hautement important pour les Américains, parce qu'effectivement, si la résistance venait à libérer l'entièreté du pays, c'est effectivement cette route maritime, donc le détroit de Bab-el-Mandeb, que vous l'avez mentionné, qui de facto transformerait la mer Rouge en un lac yéménite, il faut le dire, qui permettrait vraiment d'avoir une projection de force jusqu'à, atteindre l'entité sioniste, qui permettrait d'être imposé un embargo sur les exportations pétrolières saoudiennes. Donc ça a des conséquences absolument faramineuses, ça va sans dire. Dans ce contexte-là, les Américains ne peuvent pas tolérer que le Yémen soit libéré. Il faut absolument, par le biais de leur allié régional saoudien, que le contrôle sur ce territoire soit maintenu et que le contrôle donc du littoral côtier yéménite dans son intégralité, en fait, c'est proche de l'accord de l'Afrique, donc avec une jonction avec Djibouti et la présence chinoise qui est déjà sur place là-bas, et ça fait la connexion entre le détroit de Hormuz, le golfe Persique et la mer Rouge. Donc jusque dans l'intégralité des voies maritimes, c'est quelque chose qui a des conséquences absolument énormes et qui, la libération du Yémen est effectuée dans son intégralité, la Chine ramassera la mine.
Madame Midani, Maître De Volley venait de l'entendre et dit que voilà, et les Américains, les États-Unis ne peuvent pas tolérer que le Yémen soit libéré. Vous dites que voilà, s'agissant toujours du Yémen, c'est la Chine, également c'est la Russie, qui ces deux pays qui sont visés, Madame Midani. Alors la question qui se pose est de savoir quelle sera désormais la réaction du côté chinois et du côté russe. On connaît très bien, si vous voulez, la position de la résistance, de l'axe de la résistance. Quelle sera désormais, d'après vous, l'approche chinoise et l'approche russe, Madame Midani?
Écoutez, je crois que les Chinois et les Russes, pour l'instant, soutiennent en fait la lutte des peuples pour leur liberté, pour la souveraineté de leur pays et pour l'appropriation de leurs propres richesses. Et puis pour des rapports égalitaires différents, de respect de l'ensemble des deux parties et des rapports gagnant-gagnant. Donc effectivement, cette politique d'agression systématique des Américains et annexion entre guillemets, qui est une annexion par d'influence, je dirais, elle est complètement contradictoire avec la politique chinoise et russe. On peut penser, et ils le font réellement, ils soutiennent à leur manière cette résistance, c'est-à-dire ils ne soutiennent pas par des armes et par des mais ils soutiennent le mouvement sur place qui se défend donc en sort de et puis l'acte de la résistance. Donc effectivement, puisque dans leur politique c'est soutenir les peuples et la lutte des peuples pour leur souveraineté et pour l'appropriation de leurs propres biens, de leur propre ressource.
Mmh. Et ça va renforcer de plus en plus, en fait, cet front anti-hégémonie, Madame Midani, n'est-ce pas?
Absolument, absolument, parce que c'est un axe, de toute façon, l'axe de la résistance se situe, je dirais, je mettrais pour moi, il est partie intégrante de cet axe contre l'hégémonisme mondial, contre l'hégémonie à l'échelle mondiale, et qui sont l'axe des pays qui soutiennent l'indépendance des peuples. Donc je vois le Venezuela, pas seulement dans la région, mais en fait dans notre région du Moyen-Orient, effectivement, ces axes se dessinent. Et aujourd'hui, je dirais, la confrontation est plus chaude à ce niveau. Je voudrais aussi ajouter quand même le fait que les pays valets aussi des États-Unis qui ont passé des accords avec Israël sous la pression des Américains, comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite aussi et Bahreïn. Il y a quand même la ville de Socotra qui se trouve aussi dans cette mouvance et dans ces traitages qui a été aussi pratiquement bradée pour que les Israéliens y soient, que ce soit sous forme de tourisme ou sous forme de coopération sécuritaire avec les Émirats. Les îles de Saint-Empire et l'île de Saint-Empire qui est aux embouchures de la mer Rouge aussi, qui sont proches du canal de Suez. Donc tout ceci va dans le même type de stratégie et dans la même stratégie.
Merci.
De mettre la main sur les passages maritimes.
Merci beaucoup, Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Devollet, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Téhéran a dénoncé ce mercredi le blocage par les États-Unis de plusieurs sites internet de médias iraniens et régionaux, y voyant une action contraire à la liberté d'expression. En effet, depuis ce mardi 22 juin 2021 et en contradiction flagrante avec la liberté de presse, l'administration américaine a bloqué des sites web proches de l'axe de la résistance. Quelle est votre analyse sur cette censure imposée par les États-Unis alors qu'ils font partie des pays qui prônent une soi-disant liberté des droits humains? Philippe Hugon, analyste politique et reporter de guerre, s'exprime sur le sujet.
Alors, il faut bien savoir que les États-Unis et l'Union européenne, notamment l'Angleterre et la France, ne sont plus des démocraties. Ce sont des dictatures. Ce ne sont pas, bien sûr, des dictatures au sens propre du mot, mais ce sont des dictatures de la pensée, des dictatures médiatiques de façon à manipuler les masses. On a pu le voir en France ou aux États-Unis, de nombreuses revues ou émissions ont été censurées du fait que ça ne correspondait pas à l'état d'esprit et à la ligne politique des gouvernements. Alors moi, tout ça, bien sûr, c'est extrêmement grave parce que ça prouve, bien sûr, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus du tout de liberté d'expression. Et pourquoi Prestv est touché? Pour une raison toute simple, c'est que Prestv rapporte la vérité des événements qui se passent dans le monde. Et pourquoi aujourd'hui on censure Prestv? Eh bien, c'est très simple. Si Prestv était un média marginal il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui regarde Prestv. Donc, tant que vous intéressiez peu de gens, eh bien, les États-Unis et les pays de l'Union européenne laissaient faire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'abonnés à Prestv. Donc, c'est maintenant un média qui compte, qui est un média qui a du poids et un média qui leur fait peur, puisque c'est un média qui rapporte la vérité et un point de vue totalement différent de ce que les médias états-uniens ou européens peuvent divulguer par la presse, par la radio, par la télé. Donc aujourd'hui, Prestv fait peur. Donc on va chercher à le censurer par tous les moyens, vu qu'aujourd'hui il n'y a plus de liberté d'expression dans le monde occidental. Donc c'est quelque chose qui est absolument pas surprenant. J'en avais d'ailleurs parlé à Pierre Dortillier, qui est politologue, et on avait abordé le sujet il y a quelques mois en arrière, et on était arrivé aux mêmes conclusions. Tant qu'il y a peu d'abonnés, eh bien, il laissait faire. Aujourd'hui, Prestv touche des millions de gens à travers le monde, donc c'est devenu un média gênant. Donc, les médias gênants, eh bien, on s'arrange pour leur couper tous les moyens de transmission de leur information.
Mazandaran, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Thank you. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Le signe noir de Wall Street. La surchauffe de l'économie américaine pourrait accélérer la remontée des taux du dollar et le retrait de l'aide de la Fed, ce qui pourrait finir par peser sur la reprise économique mondiale naissante et fragile, puisque le phénomène de mondialisation économique a rendu tous les éléments rationnels de l'économie interconnectés les uns avec les autres en raison de la consolidation des oligopoles, de la convergence technologique et des accords d'entreprise tacites. La possibilité réelle d'un nouveau crash boursier passerait inaperçue pour la plupart des agences de notation en raison de la déconnexion avec la réalité qui les conduirait à justifier l'exubérance irrationnelle des marchés, réalisant ainsi la célèbre phrase de l'iconoclaste John Kenneth Galbraith « Il y a deux sortes d'économistes, ceux qui n'ont aucune idée et ceux qui ne le savent même pas ». En effet, notre esprit n'est capable de séquencer que des fragments de la séquence totale de l'immense génome du chaos avec lequel on recourt inévitablement au terme « effet papillon » pour tenter d'expliquer la conjonction vertigineuse des forces centripèdes et centrifuges qui finiront par configurer l'énigme décousue du chaos ordonné qui se prépare. L'effet papillon, transféré à des systèmes complexes comme la bourse, aurait pour effet collatéral l'impossibilité de détecter à l'avance un futur médian, puisque les modèles quantiques qu'ils utilisent ne seraient que des simulations basées sur des modèles antérieurs, ou l'inclusion d'une seule variable incorrecte, ou encore l'apparition soudaine d'une variable imprévue qui provoquerait l'amplification de la marge d'erreur des dix modèles dans chaque unité de temps simulée jusqu'à dépasser même la limite stratosphérique de 100%, donnant lieu à un nouveau signe noir, donc un crash boursier. La théorie du signe noir a été développée par Nassim Nicholas Taleb dans son livre « The Black Swan » de 2010, dans lequel il tente d'expliquer les biais psychologiques qui rendent les gens individuellement et collectivement aveugles à l'incertitude et inconscients du rôle massif de l'événement étrange dans l'histoire. Ainsi, en raison des stimuli économiques pour atténuer l'impact de la pandémie, estimé à plus de 3 milliards de dollars, les investisseurs américains se sont installés dans l'euphorie, rappelant le boom boursier des années 1920 qui était un prélude au crash de la bourse de 1929. Ils n'ont donc pas pu percevoir le vertige de l'altitude, mais le risque évident du retrait de l'aide de la Fed fera ressentir pour la première fois aux grands investisseurs le mal de l'altitude qui les conduira à réduire leur exposition au risque avec l'effet à la baisse conséquent sur les cours des actions. De plus, l'emballement de l'inflation aux États-Unis, 5% en glissement annuel en mai, va accélérer la remontée des taux d'intérêt sur le dollar, amenant les investisseurs à se distancier des actifs boursiers et du marché boursier mondial en entraînant une psychose de vente qui pourrait déclencher l'éclatement de la bulle boursière actuelle. Cette épidémie aura comme effet collatéraux la famine financière qui en résulte pour les entreprises, la dévaluation subséquente des monnaies d'innombrables pays pour augmenter leur exportation et comme effet bénéfique le fait de forcer les entreprises à redéfinir leur stratégie, à ajuster leur structure, restaurer leurs finances et rétablir leur crédit, comme cela s'est produit lors de la crise boursière de 2000 à 2002. Comme dommage collatéral, on aura la ruine de millions de petits investisseurs encore éblouis par les lumières de la stratosphère. Avec la famine financière des entreprises, on aura l'effet domino qui en résulte dans la déclaration de faillite, la contraction subséquente du commerce mondial, le règlement subséquent de la mondialisation économique et le retour subséquent à des compartiments étanches dans l'économie mondiale.
Thank you.